Lettre 17, sur l'infini et sur la chronologie. Le labyrinthe et l'abîme de l'infini est aussi une carrière nouvelle parcourue par Newton, et on tient de lui le fil avec lequel on s'y peut conduire. Descartes se trouve encore son précurseur dans cette étonnante nouveauté. Il allait à grands pas dans sa géométrie jusque vers l'infini, mais il s'arrêta sur le bord. Monsieur Wallis, vers le milieu du dernier siècle, fut le premier qui réduisit une fraction, par une division perpétuelle, à une suite infinie. Milord Brooker se servit de cette suite pour carrer l'hyperbole. Mercator publia une démonstration de cette quadrature. Ce fut à peu près dans ce temps que Newton, à l'âge de 23 ans, avait inventé une méthode générale pour faire sur toutes les courbes ce qu'on venait d'essayer sur l'hyperbole. C'est cette méthode de soumettre partout l'infini au calcul algébrique que l'on appelle calcul différentiel ou les fluxions et calcul intégral. C'est l'art de nombrer et de mesurer avec exactitude ce dont on ne peut pas même concevoir l'existence. En effet, ne croiriez-vous pas qu'on veut se moquer de vous quand on vous dit qu'il y a des lignes infiniment grandes qui forment un angle infiniment petit, qu'une droite qui est droite tant qu'elle est finie, changeant infiniment peu de direction, devient courbe infinie, qu'une courbe peut devenir infiniment moins courbe, qu'il y a des carrés d'infini, des cubes d'infini et des infinis d'infini, dont le pénultième n'est rien par rapport au dernier. Tout cela, qui paraît d'abord l'excès de la déraison, est en effet l'effort de la finesse et de l'étendue de l'esprit humain et la méthode de trouver les vérités qui étaient jusqu'alors inconnues. Cet édifice, si hardi, est même fondé sur des idées simples. Il s'agit de mesurer la diagonale d'un carré, d'avoir l'air d'une courbe, de trouver une racine carrée à un nombre qui n'en a point dans l'arithmétique ordinaire. Et après tout, tant d'ordres d'infini ne doivent pas plus révolter l'imagination que cette proposition si connue qu'entre un cercle et une tangente, on peut toujours faire passer des courbes. Ou cette autre, que la matière est toujours divisible. Ces deux vérités sont depuis longtemps démontrées et ne sont pas plus compréhensibles que le reste. On a disputé longtemps à Newton l'invention de ce fameux calcul. M. Leibniz a passé en Allemagne pour l'inventeur des différences que Newton appelle fluxions, et Bernoulli a revendiqué le calcul intégral, mais l'honneur de la première découverte a demeuré à Newton et il est resté aux autres la gloire d'avoir pu faire douter entre eux et lui. C'est ainsi que l'on contesta à Harvey la découverte de la circulation du sang, à M. Perrault celle de la circulation de la sève. Hartsocker et Leeuwenhoek se sont contestés l'honneur d'avoir vu le premier les petits vermisseaux dont nous sommes faits. Ce même Hartsocker a disputé à M. Huygens l'invention d'une nouvelle manière de calculer l'éloignement d'une étoile fixe. On ne sait encore quel philosophe trouva le problème de la roulette. Quoi qu'il en soit, c'est par cette géométrie de l'infini que Newton est parvenu aux plus sublimes connaissances. Il me reste à vous parler d'un autre ouvrage, plus à la portée du genre humain, mais qui se sent toujours de cet esprit créateur que Newton portait dans toutes ses recherches. C'est une chronologie toute nouvelle, car dans tout ce qu'il entreprenait, il fallait qu'il changeât les idées reçues par les autres hommes. Accoutumé à débrouiller les chaos, Il a voulu porter au moins quelques lumières dans celui de ses fables anciennes confondues avec l'histoire et fixer une chronologie incertaine. Il est vrai qu'il n'y a point de famille, de ville, de nation qui ne cherche à reculer son origine. De plus, les premiers historiens sont les plus négligents à marquer les dates. Les livres étaient moins communs mille fois qu'aujourd'hui. Par conséquent, étant moins exposés à la critique, on trompait le monde plus impunément. Et puisqu'on a évidemment supposé des faits, il est assez probable qu'on a aussi supposé des dates. En général, il parut à Newton que le monde était de 500 ans plus jeune que les chronologistes ne le disent. Il fonde son idée sur le cours ordinaire de la nature et sur les observations astronomiques. On entend ici par le cours de la nature le temps de chaque génération des hommes. Les Égyptiens s'étaient servis les premiers de cette manière incertaine de compter. Quand ils voulurent écrire les commencements de leur histoire, ils comptaient 341 générations depuis Ménès jusqu'à Séton. Et n'ayant pas de date fixe, ils évaluèrent 3 générations à 100 ans. Ainsi, ils comptaient le règne de Ménès au règne de Séton 11340 années. Les Grecs, avant de compter par Olympiade, suivirent la méthode des Égyptiens et étendirent même un peu la durée des générations, poussant chaque génération jusqu'à 40 années. Or, en cela, les Égyptiens et les Grecs se trompèrent dans leurs calculs. Il est bien vrai que selon le cours ordinaire de la nature, 3 générations font environ 100 à 120 ans, mais il s'en faut bien que 3 règnes tiennent ce nombre d'années. Il est très évident qu'en général, les hommes vivent plus longtemps que les rois ne règnent. Ainsi, un homme qui voudra écrire l'histoire sans avoir de date précise et qui saura qu'il y a eu 9 rois chez une nation aura grand tort s'il compte 300 ans pour ses 9 rois. Chaque génération est d'environ 36 ans. Chaque règne est d'environ de 20, l'un portant l'autre. Prenez les 30 rois d'Angleterre, depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à Georges Ier. Ils ont régné 648 ans, ce qui, réparti sur les 30 rois, donne à chacun 21 ans et demi de règne. 63 rois de France ont régné, l'un portant l'autre, chacun à peu près 20 ans. Voilà le cours ordinaire de la nature. Donc les anciens se sont trompés quand ils ont égalé, en général, la durée des règnes à la durée des générations. Donc ils ont trop compté. Donc il est à propos de retrancher un peu de leurs calculs. Les observations astronomiques semblent prêter encore un plus grand secours à notre philosophe. Il en paraît plus fort en combattant sur son terrain. Vous savez, monsieur, que la Terre, outre son mouvement annuel qui l'emporte autour du Soleil d'Occident en Orient, dans l'espace d'une année, a encore une révolution singulière, tout à fait inconnue jusqu'à ces derniers temps. Ses pôles ont un mouvement très lent de rétrogradation d'Orient en Occident, qui fait que chaque jour, leur position ne répond pas précisément au même point du ciel. Cette différence, insensible en une année, devient assez forte avec le temps et au bout de 72 ans, on trouve que la différence est d'un degré, c'est-à-dire de la 360e partie de tout le ciel. Ainsi, après 72 années, le colure de l'équinoxe du printemps qui passait par une fixe répond à une autre fixe. De là vient que le soleil, au lieu d'être dans la partie du ciel où était le bélier du temps d'Hipparque, se trouve répondre à cette partie du ciel où était le taureau, et les gémeaux sont à la place où le taureau était alors. Tous les signes ont changé de place. Cependant, nous retenons toujours la manière de parler des anciens. Nous disons que le soleil est dans le bélier au printemps, par la même condescendance que nous disons que le soleil tourne. Hipparque fut le premier chez les Grecs qui s'aperçut de quelques changements dans les constellations par rapport aux équinoxes, ou plutôt qu'il apprit des Égyptiens. Les philosophes attribuèrent ce mouvement aux étoiles, car alors on était bien loin d'imaginer une telle révolution dans la Terre. On la croyait en tous sens immobile. Ils créent donc un ciel où ils attachèrent toutes les étoiles et donnèrent à ce ciel un mouvement particulier qui le faisait avancer vers l'Orient, pendant que toutes les étoiles semblaient faire leur route journalière d'Orient en Occident. À cette erreur, ils en ajoutèrent une seconde bien plus essentielle. Ils crurent que le ciel prétendu des étoiles fixes avançait vers l'Orient d'un degré en 100 années. Ainsi, ils se trompèrent dans leurs calculs astronomiques aussi bien que dans leur système physique. Par exemple, un astronome aurait dit alors « L'équinoxe du printemps a été, du temps d'un tel observateur, dans un tel signe, à une telle étoile. Il a fait 2 degrés de chemin depuis cet observateur jusqu'à nous. Or, 2 degrés valent 200 ans. Donc, cet observateur vivait 200 ans avant moi. Il est certain qu'un astronome qui eût raisonné ainsi se serait trompé justement de 54 ans. Voilà pourquoi les anciens, doublement trompés, composèrent leur grande année du monde, c'est-à-dire de la révolution de tout le ciel, d'environ 36 000 ans. Mais les modernes savent que cette révolution imaginaire du ciel des étoiles n'est autre chose que la révolution des pôles de la Terre, qui se fait en 25 900 années. Il est bon de remarquer ici, en passant, que Newton, en déterminant la figure de la Terre, a très heureusement expliqué la raison de cette révolution. Tout ceci posé, il reste, pour fixer la chronologie, de voir par quelle étoile le colure de l'équinoxe coupe aujourd'hui l'écliptique au printemps et de savoir s'il ne se trouve point quelque ancien qui nous ait dit en quel point l'écliptique était coupé de son temps par le même colure des équinoxes. Clément Alexandrin rapporte que Chiron, qui était de l'expédition des Argonautes, observa les constellations au temps de cette fameuse expédition et fixa l'équinoxe du printemps au milieu du bélier, l'équinoxe de l'automne au milieu de la balance, le solstice de notre été au milieu du cancer et le solstice d'hiver au milieu du capricorne. Longtemps après l'expédition des Argonautes et un an avant la guerre du Péloponnèse, Méton observa que le point du solstice d'été passait par le 8e degré du cancer. Or, chaque signe du zodiaque est de 30 degrés. Du temps de Chiron, le solstice était à la moitié du signe, c'est-à-dire au 15e degré. Un an avant la guerre de Péloponnèse, il était au 8e. Donc, il avait retardé de 7 degrés. 1 degré vaut 72 ans. Donc, du commencement de la guerre du Péloponnèse à l'entreprise des Argonautes, il n'y a que 7 fois 72 ans qui font 504 ans et non pas 700 années comme le disaient les Grecs. Ainsi, en comparant l'état du ciel d'aujourd'hui à l'état où il était alors, nous voyons que l'expédition des Argonautes doit être placée environ 900 ans avant Jésus-Christ et non pas environ 1400 ans. Et par conséquent, le monde est moins vieux d'environ 500 ans qu'on ne pensait. Par là, toutes les époques sont rapprochées, et tout s'est fait plus tard qu'on ne le dit. Je ne sais si ce système ingénieux fera une grande fortune et si on voudra se résoudre sur ces idées à réformer la chronologie du monde. Peut-être les savants trouveraient-ils que c'en serait trop d'accorder à un même homme l'honneur d'avoir perfectionné à la fois la physique, la géométrie et l'histoire. Ce serait une espèce de monarchie universelle dont l'amour propre s'accommode malaisément. Aussi, dans le temps que de très grands philosophes l'attaquaient sur l'attraction, d'autres combattaient son système chronologique. Le temps, qui devrait faire voir à qui la victoire est due, ne fera peut-être que laisser la dispute plus indécise.